Ce soir, nous recevons Jean Klein. Jean Klein est professeur à l'université de Paris 7, Denis Diderot. Il est membre de la commission 5 du comité national du CNRS depuis octobre 2000. Il est chercheur au groupe de physique des solides qui dépend de l'université Paris 7 et du CNRS. Et ce groupe de physique des solides qu'il a dirigé entre 1995 et l'an dernier. Ses recherches portent sur les semi-conducteurs, ont d'abord commencé à porter sur les semi-conducteurs, puis plus récemment, enfin par la suite, sur les supraconducteurs. Il est spécialiste de la spectroscopie et de la microscopie à effet tunnel, et de manière générale, de la microscopie en champ proche, dont il va nous dire beaucoup de choses ce soir. Il a publié de nombreux articles dans des revues spécialisées nationales et internationales, mais également, parallèlement, il a développé une grande activité de vulgarisation en publiant des articles dans des revues comme la recherche, Pour la Science, Science et Vie, en donnant de nombreuses conférences, une de plus ce soir, et également en ayant une activité de formation permanente en milieu industriel. Je mentionnerai enfin qu'il est l'auteur d'un livre, Histoire et légendes de la supraconductivité, publié aux éditions Kalman-Lévy en 1994. Voilà, Jean Klein, je vous cède la parole.
Merci beaucoup. Bien, j'espère, oui, tout marche. Donc, je vous remercie pour votre invitation à l'Université Tous les Savoirs, pour que je puisse un peu présenter les travaux qui se font essentiellement sur Jussieu au GPS, mais en même temps un petit peu ailleurs dans le monde. Et il peut sembler bizarre au départ qu'on appelle cette conférence par des instruments, de la microscopie électronique aux microscopies en champ proche. Alors effectivement, les instruments, c'est l'intermédiaire entre l'homme et la matière, et l'homme a toujours voulu essayer de savoir de quoi était faite la matière et explorer l'infiniment petit. L'infiniment grand sera d'autres conférences dans le futur. Donc pour voir l'infiniment petit, au départ, on avait ses yeux, et ensuite la loupe, et ensuite le microscope, et le microscope optique, qui a été, si on peut fixer sa date, c'est 1591, on pouvait faire des images ensuite en améliorant les performances des lentilles, mais quoi qu'il en soit, le microscope optique avait une résolution qui était liée à la source lumineuse qui servait à faire des images. L'image d'un point est une tâche, l'image de deux points, c'est deux tâches. Si les tâches se superposent, on ne peut plus déceler les points images correspondant aux deux points objets. Alors, la limite de résolution, c'est la longueur d'onde divisée par deux. La longueur d'onde, comme on a vu hier, ça caractérise la variation spatiale d'une onde lumineuse, et si bien que la résolution des microscopes optiques, on la fixe à 300 nanomètres. Alors, qu'est-ce qu'un nanomètre? Je vous rappelle que le mètre, on sait ce que c'est, il s'est déposé au pavillon de Breteuil. On divise par 10, on a par 1000, on a le millimètre, encore par 1000, on a le micron, et encore par 1000, on a le nanomètre. Si on veut voir, donc c'est le milliardième de mètre, si on veut voir un atome, qu'est-ce qu'il faudrait voir, qu'est-ce qu'il faudrait pouvoir mesurer? Alors un atome, c'est 0,1 nanomètre, 10 puissance moins 10 mètres, ou encore un angstrom. Alors si bien qu'avec des microscopes optiques, de toute façon, on était limité au micron. Alors l'idée, c'est de se dire, puisque la résolution, c'est la longueur d'onde, prenons des rayonnements qui ont des longueurs d'onde de plus en plus petites. On pouvait penser au rayonnement ultraviolet, au rayonnement X, où on voit que on voit que les longueurs d'onde sont tout à fait dans les gammes qui, je ne sais pas si ça fonctionne plus, ça je pense. Bon, excusez-moi. Alors on voit tout de suite que les longueurs d'onde sont tout à fait convenables, a priori, pour pouvoir. C'est par là. Où est-elle, la trace? Bon, aucune ne marche. Mais, attendez, celle-là peut-être. Ah, là voilà. Bon. J'ai encore perdu. Non. Bon, c'est peut-être pas la peine. Alors, comme vous pouvez le voir sur le graphique là-haut, un jour, j'y m'y retrouverai, mais les longueurs d'onde varient entre 1 et 100 nanomètres. Alors, effectivement, pour le rayonnement ultraviolet, ça ne convient pas, mais les rayonnements X de 0,01 à 1 nanomètre ou le rayonnement gamma, effectivement, sont des longueurs d'onde convenables. Malheureusement, pour faire une image, il ne suffit pas d'avoir une source de petites longueurs d'onde. Il faut en même temps pouvoir faire des images et donc avoir des lentilles qui permettent de former des images. Il faut donc une optique adaptée, et malheureusement, il n'y a pas d'optique, il n'y a pas de lentille pour le rayonnement UV, X ou gamma convenable pour faire des images qui permettent d'atteindre ces résolutions de lambda sur 2. Alors, ça semblait désespéré, mais Louis de Broglie, en 1924, a établi un critère d'universalité qui est que toute particule de masse petit m animée de la vitesse petit v se décrit comme une onde de longueur d'onde lambda qui est égale à h, la constante de Planck, divisée par mv. Cette constante de Planck, c'est 6 10 puissance moins 34 en unité, on connaît bien sa valeur. Si on prend la masse de l'électron et les vitesses convenables des électrons, on arrive à une longueur d'onde lambda de l'ordre du picomètre, c'est-à-dire le millième du nanomètre, c'est-à-dire 100 fois plus petit que la taille d'un atome. Alors, si bien que c'était déjà gagné pour la source, maintenant il fallait savoir si on pouvait avoir de l'optique adaptée permettant de faire des images. Et effectivement, Hans Busch, en 1927, a montré qu'un champ électrique ou un champ magnétique agissant sur la charge électronique pouvait les dévier et faire converger le faisceau en un point d'un axe. C'est tout à fait possible à ce moment-là d'avoir une optique électronique équivalente à l'optique lumineuse, et il a même montré comment on pouvait faire des lentilles et que les relations de conjugaison entre un objet et son image étaient les mêmes que celles de l'optique. Tout de suite, c'est devenu intéressant de construire un microscope électronique. Et le premier microscope électronique qui ne marchait pas très bien, c'était le sujet de thèse de M. Ernst Ruska en 1932, et qui a montré une image en microscope optique et une image en microscopie électronique tout à fait convenable, où on pouvait identifier les éléments observés. Alors, la grande date de l'exposé d'aujourd'hui, c'est 1932, la première pour la microscopie électronique, qui s'est développée ensuite, et qui a permis à Ruska d'avoir le prix Nobel en 1986, en même temps que Gerd Binnig et Heinrich Rohrer, en 1982, qui ont inventé le microscope à effet tunnel, qui fait partie de la famille des microscopes en champ proche. Alors, on va d'abord parler des microscopies électroniques, schématiquement, distinguer les grandes classes principales, et ensuite passer aux microscopies en champ proche, qui ouvrent des horizons assez intéressants pour le futur. La microscopie électronique, il y a deux familles, microscopie électronique à transmission et la microscopie électronique à balayage. Alors, les électrons issus d'une source vont être accélérés par un potentiel, et pour les potentiels couramment utilisés de l'ordre de 100 kV, on a des longueurs d'onde de 4 picomètres, ce qui est tout à fait convenable pour essayer de voir des tout petits objets. Alors, la microscopie électronique à transmission, on voit à droite son organisation, ou on devine à droite son organisation, puisque ce n'est pas très très net. Tout en haut se trouve le canon à électrons qui, chauffé, va émettre des électrons. On va essayer ensuite d'organiser ce faisceau d'électrons. Bon, alors on descend la colonne, toujours du haut vers le bas. Il y a des lentilles qui permettent donc de réaliser un faisceau parallèle. Et ce qui est important, c'est que l'échantillon... Non, ça ne va pas dans ce sens-là, ça ne va pas dans celui-là non plus. Moi, je vois rien, là, il sent rien de ce truc. Ah, ça y est. Non, il y avait... Bon. Alors, vous voyez que l'échantillon est là. Oui. La technique, des fois, nous joue des tours. Alors, le canon est là. Il y a des lentilles qui permettent d'envoyer un faisceau sur un échantillon qui est traversé par le faisceau électronique. Ensuite, il y a... une lentille qui est l'objectif, des lentilles qui permettent de former les images, et la dernière lentille qui est la lentille de projection de l'image sur un écran. On a ici un grandissement qui peut atteindre jusqu'à 10 puissance 6, mais vous voyez tout de suite le problème, c'est bien un microscope électronique en transmission, car le faisceau d'électrons traverse l'échantillon et forme une image projetée, si bien que l'échantillon doit être sous forme d'un film mince pour être traversé par le faisceau d'électrons, et l'image qu'on obtient est une image projetée d'un échantillon à 3 dimensions, on a une image à 2 dimensions. Si bien que si on a des colonnes d'atomes parallèles au faisceau d'électrons, on ne verra que les traces projetées de ces colonnes d'atomes et on ne voit pas du tout le détail de l'intérieur de l'échantillon. Alors, au lieu d'avoir un écran ici, une image sur un écran fluorescent, on peut évidemment mettre une caméra vidéo, enregistrer le signal, le traiter sur ordinateur et faire toutes les manipulations qu'on sait faire actuellement sur l'imagerie grâce à l'informatique. Et ça permet d'avoir des images avec beaucoup de un rapport signal sur bruit très intéressant. Alors, la résolution latérale, c'est 0,2 nanomètres. Et souvent, les couches sont très minces si les atomes sont lourds. Les couches sont beaucoup plus épaisses, de l'ordre d'une dizaine à une centaine de nanomètres pour des atomes légers. Alors, ceci étant, on a deux types d'informations, car l'échantillon est traversé par un flux d'électrons qui donne des traces ici, mais en même temps, il y a des plans atomiques dans l'échantillon qui peuvent diffracter les ondes associées aux électrons et donner une figure de diffraction. Donc un microscope électronique en transmission donne deux informations, soit une image projetée, soit une image de diffraction. Voilà comment ça se présente. Il ne manque que l'opérateur assis ici. Ça fait à peu près 2 mètres de long, ça fait 10 mégafarads. Tout ça est sous vide pour que le faisceau d'électrons puisse se propager. Il y a des traitements d'image avec beaucoup d'informatique. Il y a des pompages pour arriver à un vide de 10.10, souvent dans les meilleurs des cas, en ultra-vide. Et voilà. Alors il y a un deuxième type de microscope électronique qui est d'une autre famille, qui est la microscopie électronique à balayage. Alors le principe est le même. On a la source qui est un canon à électrons. On envoie des électrons, mais ces électrons, ce faisceau d'électrons est focalisé en un point de l'échantillon, sur la surface de l'échantillon. L'échantillon peut donc être massif. Les électrons arrivent focalisés sur la surface, pénètrent à l'intérieur de l'échantillon et en pénétrant sont ralentis et finissent par s'arrêter. Dans leur mouvement de freinage, ils émettent des électrons secondaires, des rayons X, d'autres types d'électrons qui viennent de la matière, et on collecte, moyennant des détecteurs appropriés, tous ces électrons. Alors les électrons secondaires servent à faire une image qu'on projette sur un écran d'un tube d'oscilloscope comme un tube de télévision, et un point de l'objet correspond à un point de l'image, et le balayage du spot qui sert à faire des images est synchrone du balayage du spot qui sert à faire les images ici et qu'on prend les images ici. On prend l'information là, on la répercute ici, et il y a un système d'asservissement qui permet de synchroniser les balayages, d'où les deux bobines et la tension de balayage qui est là. Alors évidemment, on peut aussi traiter l'information via tout un système où on peut ramasser ici les rayons X. Un analyseur multicanal permet de déterminer l'énergie de ces rayons en fonction de leur longueur d'onde et de faire une analyse chimique de l'échantillon. Donc on a d'une part des problèmes liés à la structure atomique de l'échantillon et en même temps à la nature des atomes qui constituent l'échantillon. Et ça permet, comme ça, d'avoir de l'information, mais essentiellement sur une petite tranche d'épaisseur d'une dizaine à une centaine de nanomètres, qui est la pénétration des électrons avant qu'ils soient ralentis dans la matière. La résolution latérale est 2 nanomètres. Alors, des exemples des microscopies électroniques à transmission plutôt haute résolution, donc ça s'est beaucoup amélioré au cours du temps, et on a des images qui sont toujours de plus en plus performantes. Vous voyez ici 3 nanomètres, et là, c'est simplement un semi-conducteur qui est issu du CDS, entouré d'une coquille protectrice d'un autre semi-conducteur qui est du ZNS. Alors, on devine les traces des colonnes atomiques projetées ici. Et ici, on a les colonnes atomiques de ZNS qui protègent cette petite particule de CDS. Faire des petites nanoparticules de semi-conducteurs, c'est très intéressant pour les propriétés optiques. Les propriétés optiques sont souvent dominées par la surface. Et le fait qu'on a un échantillon de petite taille, on a du confinement quantique, c'est des choses qui ont été évoquées un peu hier, mais qui donc donnent des propriétés assez remarquables de ces petites particules. Alors pour l'image, comme ces deux matériaux différents déphasent la lumière de manière différente, on peut mettre au point sur le CDS et effacer le ZNS, ou l'inverse. Alors ça, c'est un exemple où on a mis au point uniquement sur le CDS, et on voit qu'autour, la coquille s'efface, et on la devine plutôt que la voir. Un autre exemple, alors plus lié à la science des matériaux carbone-diamant. Alors là, on a un monocristal. Ce monocristal est traversé par le flux d'électrons. Alors on voit les traces des colonnes atomiques projetées. Voilà un cristal qui a une autre orientation. Avec ici, ça fait donc un bicristal. Et puis on voit des lignes de dislocation ici et là, et un pôle qui apparaît là où les lignes se rejoignent. Et on voit la résolution ici, c'est 1 nanomètre. Un polymère qui est formé de longues chaînes moléculaires enchevêtrées ne montre pas de structure particulière, mais plutôt cet enchevêtrement qui est reflété ici sur l'image. Alors, une étude qui a été faite récemment sur des petites particules de cobalt, qui est un matériau intéressant pour ses propriétés magnétiques. C'est des particules de cobalt qui sont noyées dans une matrice d'alumine, qui est isolante. Alors quand on met très peu d'épaisseur équivalente de cobalt, de l'ordre de 0,3 nanomètre, on a des toutes petites particules qu'on voit par imagerie en microscopie électronique à transmission. On disait tout à l'heure qu'on pouvait, en changeant la focalisation des lentilles, avoir une image de diffraction. Cette image donne des anneaux qui sont caractéristiques de la structure cristalline interne à ces particules. Alors on voit que les particules de cobalt ont une certaine structure cristalline particulière qu'on connaît bien. On augmente la quantité, on voit la topographie sur l'image directe. Alors les particules sont plus grosses, on voit leur taille, on peut donc voir si c'est relativement monodisperse ou pas. Et la diffraction associée à l'imagerie permet de voir que les anneaux ont changé. Vous regardez cette figure et celle-ci, en fonction de l'épaisseur de cobalt, on voit que ça a changé, et même la structure intime de chaque particule de cobalt est différente. Alors ça, c'est quand on augmente la taille, si on change la structure atomique, c'est quand même un phénomène physique intéressant. Voilà. D'autres exemples, je balaye un peu l'ensemble des exemples de la microscopie électronique, sans l'épuiser parce que ça, il faudrait des milliers d'images. Là, c'est une dislocation qui, sous l'effet de contrainte qu'on applique à l'échantillon dans le microscope électronique proprement dit, on peut voir comment cette dislocation se déplace au cours du temps. Alors, c'est une ligne de dislocation qu'on voit se déplacer. On a fait des images successives et ça fait comme un film vidéo, mais vous voyez que c'est la même qu'on revoit tout le temps. C'est plusieurs images successives qui ont été enregistrées. Maintenant, beaucoup d'applications de la microscopie électronique en transmission provient des sciences de la vie, où on essaye d'imager des objets qui intéressent les biologistes. Pour ça, il faut améliorer le contraste. Pour améliorer le contraste, souvent, on décore ces objets. On met dessus un film mince d'or pour évacuer les charges électroniques qui arrivent sur ces objets. Il faut les évacuer et on a un film métallique pour cela. Parfois, on met des atomes lourds qui imprègnent ces particules pour augmenter le contraste. Alors, c'est une préparation d'échantillons qui ne sont plus dans leur milieu naturel et on les observe une fois morts et ça donne des structures. Simplement, on voit comment c'est la structure. Et ici, par exemple, un brin d'ADN. Mais ce brin d'ADN, pour améliorer le contraste, a été enrobé de protéines qu'on appelle REC-A, qui fait qu'elle est plus grosse en diamètre que la réalité. Ça permet d'observer différentes conformations possibles de ces brins d'ADN. Alors, en microscopie électronique à balayage maintenant, la résolution est nettement moins bonne. On a vu 2 nanomètres. Alors, des photos qu'on a trouvées, là, c'était un moustique, un fond d'œil de moustique pour voir peut-être s'il est en bonne santé. Escherichia coli, à gauche, là, j'ai perdu déjà le spot, non ? Voilà. Alors, ça, c'est une bactérie qui existe dans l'organisme et qui n'est pas pathologique si elle n'est pas en abondance. Et là, vous avez un virus, qui est le virus HIV, qui sort d'une cellule et qui a été aussi visualisé par microscopie électronique à balayage. Alors, ces microscopies, si on en dresse le bilan, il y a eu énormément d'améliorations du point de vue de la technique et on a fait des microscopies électroniques en transmission elles-mêmes balayées, il y a eu de l'holographie électronique, il y a eu des analyses de perte d'énergie des électrons qui traversent les échantillons. Il y a énormément d'études. Mais si on veut essayer de faire un petit bilan, on voit d'abord qu'on peut avoir une analogie avec la microscopie optique. Il y a une source lumineuse, il y a une lentille objectif, il y a une lentille deuxième qui sert à faire une image. Ça ressemble beaucoup à un microscope optique. Et si on regarde bien, les ondes associées aux électrons sont des ondes progressives. Et la distance entre l'échantillon et la source, et l'échantillon et son image, sont des distances très grandes par rapport à la longueur d'onde qui sert à faire ces images. Alors on dit qu'on est en champ lointain, par opposition à ce qu'on va voir tout à l'heure qui s'appelle le champ proche. Donc ici, c'est du champ lointain. Par ailleurs, comme on projette une image en passant à travers un échantillon sous forme de film mince, on a une image projetée bidimensionnelle, on voit plutôt le volume que la surface. Et dans le cas des microscopes électroniques à balayage, on voit un peu plus la surface, mais ça pénètre quand même sur une centaine d'angström. Et si on s'intéresse au dernier plan, ce qu'on appelle la surface, c'est le dernier plan atomique, le vide d'un côté, le matériau de l'autre. Avec ces microscopies, on ne voit pas la surface avec la résolution atomique. C'est impossible. Alors évidemment, les applications des microscopies électroniques, dont j'ai montré quelques exemples, sont dans la métallurgie, les sciences des matériaux, les sciences de la vie. Vous avez sûrement rencontré et vu des tas de photos dues à ces microscopies. Ça porte énormément, mais pour la surface, avec une résolution atomique, il a fallu un nouveau concept, et c'est le nouveau concept des microscopies en champ proche. Alors, les microscopies en champ proche, c'est 1982, Binig et Rohrer, à IBM Zurich, ont inventé le microscope à effet tunnel. STM, c'est Scanning Tunneling Microscope, on devrait même dire nanoscope, qui s'appuie sur un principe de physique qui est l'effet tunnel, qui a été trouvé en 1928 tout de suite après la mécanique ondulatoire, et qu'on peut représenter comme cela. Voici un métal, le vide. Un électron dans un métal est libre de se déplacer, il transporte le courant électrique. En termes d'onde, puisqu'il y a une dualité onde-corpuscule, l'électron est représenté par une onde qui se propage. Un électron se déplace, l'onde se propage. Quand il arrive à l'interface métal-vide, l'électron a envie de sortir sous vide. S'il sort sous vide, il est tout de suite rappelé par les ions positifs du métal qui veulent l'empêcher de sortir. Alors, c'est représenté par cette barrière de potentiel qu'on appelle le travail de sortie. C'est l'énergie qu'il faudrait fournir pour emmener un électron sous vide à l'infini. Et du point de vue des ondes, ça veut dire simplement qu'il pénètre, qu'il va un peu voir dans le vide, mais revient tout de suite très vite. L'onde ne se propage pas, on dit que c'est évanescent, c'est une onde évanescente. Et la distance évanescente est de 0,1 à 0,2 nanomètres. Mais quand même 0,1 ou 0,2 nanomètres. Si on prend la solution symétrique ici et qu'on a une structure métal-vide-métal, eh bien on a la même configuration, rouge d'un côté, vert de l'autre. Et on voit que si on les approche tous les deux à une distance de l'ordre du nanomètre ou moins, eh bien les parties rouges et les parties vertes des deux ondes qui décrivent ces électrons vont se recouvrir. Et du fait qu'elles se recouvrent, ça veut dire qu'un électron qui arrive ici sous vide est décrit par une fonction qui est un mélange rouge et vert. S'il est rouge, il peut devenir par ce mélange vert. Mais s'il est vert, il peut devenir par ce mélange rouge. Et par conséquent, un électron peut passer d'un côté à l'autre par un effet qu'on appellerait l'effet tunnel, puisqu'il traverse une barrière, qui est une barrière qui a une certaine hauteur, mais qui ne surmonte pas, il la traverse par effet tunnel. Alors cet effet tunnel a été utilisé par Binet-Grorer pour faire le microscope de la manière suivante. C'est qu'on prend un échantillon qu'on veut analyser, dont vert ici, et l'autre électrode, l'autre métal, c'est une pointe, la pointe rouge. Alors comme la partie évanescente des fonctions qui sont sous vide serait dans cet espace-là, le recouvrement n'est important qu'ici, juste au bout de la pointe et en face de l'échantillon. Alors si bien que le courant est localisé et va analyser l'échantillon juste en face de l'endroit où se trouve la pointe. Si on applique une différence de potentiel, ça change l'énergie de l'électron de l'ordre de QV, sa charge fois le potentiel. Alors on peut favoriser le transfert d'échantillons d'électrons de la pointe vers l'échantillon ou l'inverse, en inversant le potentiel de l'échantillon vers la pointe. Alors on voit tout de suite qu'en termes de schéma d'énergie, l'énergie des électrons, c'est vertical. La barrière de vide, et c'est D l'épaisseur qu'on voit ici. Et si on polarise, on applique une différence de potentiel entre la gauche et la droite, par exemple on monte l'énergie potentielle des électrons d'une quantité QV, ils vont aller de la gauche vers la droite par effet tunnel. Le courant tunnel va donc dépendre du nombre d'électrons qu'ils peuvent traverser, qui est la tranche d'épaisseur QV, par une exponentielle qui traduit ce phénomène de recouvrement de queue exponentielle. Alors c'est un phénomène qui est assez petit, l'exponentielle c'est moins racine de phi fois d l'épaisseur, c'est les grandes, il n'y a pas de courant, c'est les petites, ce courant peut apparaître, et racine de phi c'est la hauteur de la barrière qu'il faut traverser, c'est phi, c'est le travail de sortie métal vide. Alors on voit bien sur une courbe comme celle qui est là, on voit bien que le courant tunnel décroît exponentiellement. Bien voilà le principe de base, le principe physique. Et comment se présente un microscope à effet tunnel? Et bien c'est très très simple en fait. C'est ici une pointe qu'on amène très près d'un échantillon pour que l'effet tunnel apparaisse. Un nanomètre, c'est du champ proche. Pour l'amener si près, on utilise un piézoélectrique. Ce piézoélectrique, c'est plomb zirconium titane, a la propriété que lorsqu'on lui applique un potentiel, il se dilate. On inverse le potentiel, il se contracte. Donc on peut le dilater, l'approcher, le contracter, le retirer. En même temps, si on met des électrodes opposées, il va avoir une flexion vers la gauche ou vers la droite, et une électrode devant, une électrode derrière, il va aller vers l'avant ou vers l'arrière. Alors on voit tout de suite qu'on a les trois degrés de liberté, X, Y et Z, pour se mettre en position. Alors si bien qu'on se met en position d'effet tunnel, très près, et puis on mesure le courant. Alors voilà une ligne de courant. Le courant est constant, c'est sur une terrasse d'un échantillon. Le courant est constant, et puis quand on approche ici, on voit que le coin est beaucoup plus près. Et si on ne fait pas attention, la pointe va cogner le coin et se briser. Pour éviter ça, on utilise une méthode d'asservissement. Le courant tunnel mesuré est comparé à un courant de référence. La différence entre le courant de référence et le courant tunnel donne une tension. Cette tension réagit sur la céramique piézoélectrique et va la déplacer de telle manière que le courant tunnel reste constant. Alors, si bien que là, le courant est constant, rien ne se passe. On s'approche ici, le courant augmente, on recule la pointe. Arrivé sur la terrasse du dessus, rien ne se passe, le courant est constant. Et arrivé ici, on rencontre une impureté. Si cette impureté est plus conductrice que l'échantillon, le courant augmente. On va alors reculer la pointe pour être à courant constant. Et ensuite, on dépasse l'impureté. Si l'impureté est moins conductrice que l'échantillon, pour trouver le même courant, on va se rapprocher, puisqu'il dépend de la distance. Et on va donc descendre comme ça vers le bas. Alors en mesurant VZ, la tension Z qu'on applique pour déplacer verticalement l'échantillon, on fait une topographie de la surface, Z, la cote, en fonction de XY, qui est un point courant. Donc on voit qu'on a une carte d'état-major de la surface, avec les pics, les vallées, et ça nous donne la rugosité de surface. Et on voit que c'est la résolution est liée à la taille de la pointe. La taille de la pointe est terminée par un atome, et on voit des atomes. Ici, c'est un échantillon de niobium-sélénium, dicalcogénure des métal de transition. Et les points qu'on voit ici sur la figure sont des atomes. Et voilà deux impuretés qui traînaient là, sur la surface. Alors, évidemment, comme ça a été inventé par des gens d'IBM, leur premier objectif, c'était de regarder du silicium. Le silicium, ça sert à faire des circuits intégrés, et si bien qu'il est très important de voir la surface de silicium. Si elle a des défauts, le circuit intégré fabriqué ne fonctionnera pas. Si elle n'a pas de défauts, on a des chances que ça fonctionne. Et il fallait regarder la surface pour voir dans quel état elle se trouvait. Alors voilà une surface du silicium, qui est un monocristal. 1-1-1, ça définit la face cristalline. Et à notre grande surprise, on peut regarder cette surface et on voit qu'il y a un motif qui se répète, qui est un petit losange qu'on voit ici. Et si vous regardez bien, en accolant des losanges comme ça, avec aux quatre coins, il y a des trous noirs, on voit des points noirs, ça fait un pavage de l'espace. Mais malheureusement, sur cet échantillon-là, il y a une ligne de défaut qui fait qu'il est inutilisable. Un zoom de cette surface remontre encore le losange qu'on voit ici, que je parcours, qui fait 28 angstroms de côté par 28 angstroms de côté. Alors c'est là où on voit la puissance du champ proche. C'est que dans le volume, il y a une maille qu'on appelle un parrain qui sert de référence. Eh bien ici, on voit que la maille de la surface, uniquement de la surface, elle est différente et elle est 7 fois plus grande que la maille du volume. C'est pour ça qu'on l'appelle 7 par 7. Mais comme ça concerne que le dernier plan atomique, c'est invisible dans une microscopie électronique qui, elle, voit à la fois le volume et la surface. Mais la contribution de la surface est négligeable par rapport à celle imposante du volume. Alors, si bien que cette dernière couche qu'on voit ici, avec ces points rouges, ne donne pas de signal en microscopie électronique, mais par contre est facilement visible en microscopie à champ proche, donc microscopie à effet tunnel. Ça, c'est le modèle pour savoir pourquoi on a ce losange, comment s'empilent les atomes quand on fait une vue de profil, et on peut comprendre tout à fait l'arrangement qu'on observe. Alors après les semi-conducteurs, on regarde les métaux, et un métal qui est important ici, c'est l'or 1-1-1, qui est un métal intéressant, parce que lui aussi présente ce problème de reconstruction. C'est-à-dire que les derniers atomes du dernier plan de la surface sont libres au-dessus, ils n'ont plus de liaison, et la couche de surface est contractée de 4%, qui fait que finalement, dû à cette contraction, on va avoir 23 atomes à mettre dans 22 places, et si bien qu'on est obligé de les serrer un peu, et automatiquement ça donne une structure de surface qu'on appelle reconstruite, où on voit qu'on a bien des atomes qui sont les petits points qui forment des hexagones, qui est la structure habituelle, mais ici il y a des traces blanches, et ces traces blanches c'est des protubérances, c'est les atomes qui sortent ici du site, et qui sortent ici du site. Alors c'est pas un relief extrêmement important, mais c'est très visible en microscopie à effet tunnel. Et alors on dit que cette reconstruction, c'est 22, puisqu'il y a 22 sites, sur racine de 3, et c'est ça la maille élémentaire à partir de laquelle on peut reconstruire le cristal. Vu à plus grande échelle, 110 nanomètres comme on voit sur la figure, ça donne une structure en chevron, et dans les coudes des chevrons, il y a un défaut qui apparaît, qui est entouré ici en vert, avec sa flèche rouge, et moi je cherche la mienne, mais je l'ai perdue encore. Ah non, elle devrait être là, la voilà. Et vous voyez, ici, il y a une dislocation qui émerge à la surface. Alors, on va s'en servir pour pouvoir faire de la croissance d'échantillons où, sur une surface d'or, on va mettre du cobalt. Alors, le cobalt est intéressant pour les applications magnétiques, et si bien que lorsqu'on met un peu de cobalt sur de l'or, eh bien, voilà les traces, ici, des chevrons qu'on avait montrés tout à l'heure. Eh bien, voilà les premiers atomes de cobalt qui apparaissent noirs ici. C'est un petit amas d'atomes. Il s'est mis exactement au coude, à la partie très coudée qui se trouve ici, l'autre est moins coudée, c'est là qu'il y a une dislocation, et ça se met où il y a un défaut qui sert d'ancrage. Donc les atomes de cobalt sont ancrés sur le défaut qui est sur la surface. Alors si on répète cette opération et qu'on met beaucoup plus de matière, eh bien, on a des petits amas de cobalt qui sont des petits plots qui se mettent bien alignés. C'est une structure ordonnée sur le substrat d'or. Chaque petit plot de cobalt peut porter une information magnétique. On peut lire cette information. Et si on regarde les dimensions, 100 nanomètres par 100 nanomètres, vous voyez tout de suite qu'on peut avoir une densité d'information stockée par l'information magnétique sur chaque plot qui est 1000 fois plus dense que pour les disques actuels. Alors, on a pu étudier un petit peu la topographie de ces choses-là, mais je vais plutôt aller un peu plus loin. Donc voilà le réseau de plots bien ordonné, qui chaque fois représente un bit d'information. Ça, c'est sur l'or, c'est ce qu'on vient de voir. Sur le platine, où il n'y a pas de structure due à la surface de platine, on fait des fils de cobalt bien parallèles. Vous voyez qu'ici, c'est 100 nanomètres. Alors maintenant, il y a d'autres types de croissance. Quand on a un métal sur une surface, les atomes de métal bougent et diffusent. Alors, parfois, ils rencontrent un autre atome, et quand ils se rencontrent, ils se lient ensemble. Et ça se fait un peu au hasard. Et c'est cette diffusion qui produit une agrégation comme ça, qui ressemble à un arbre de Noël. Si on met peu de matière, on a la même structure. On met beaucoup de matière, c'est la structure qu'on croit de manière autosimilaire. C'est ce qu'on appelle un fractal. Et cette structure fractale, on peut l'analyser dans des modèles. Et ces modèles sont représentés ici. Voilà la simulation numérique avec des équations qui sont connues. Voilà ce qu'on observe. Et la correspondance entre les deux est raisonnable et montre qu'on a assez bien compris comment se passe ce mécanisme de croissance. Si on sait déplacer les atomes, là c'est encore quelque chose d'assez spectaculaire. On a une pointe au-dessus d'une surface, on a un atome sur la surface, comme on vient de voir, mais on peut le piéger par le champ électrique qui règne au bout de la pointe. C'est ce qu'on appelle le pouvoir des pointes. Le champ électrique est localisé au bout de la pointe et peut piéger un atome qu'on peut ensuite déplacer. Alors on prend un atome, on le déplace, on va le mettre là. Puis on va en chercher un deuxième, on va le mettre là. Un troisième, un quatrième, et on peut faire une lettre. Et voilà une lettre chinoise qui est assez esthétique. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire, mais peut-être que certains peuvent me le dire. Et donc on déplace les atomes et on peut faire on peut les manipuler et faire des petits circuits avec ces atomes. Là, c'est simplement maintenant avec une molécule. On peut prendre une molécule de CO, de monoxyde de carbone, la piéger par le champ électrique qui règne au bout de la pointe, les déplacer, et faire une petite structure, que le petit bonhomme, qui fait 5 nanomètres de haut, et qui montre quand même qu'il y a des physiciens qui sont des artistes. Alors ici, maintenant, c'est des surfaces d'argent et d'or, qui, maintenant, on s'intéresse aux électrons, parce qu'on a mis des atomes sur les surfaces, mais on peut ne pas en mettre, et regardez ce qui se passe pour les électrons. Alors, les électrons ici, sont dans le plan de surface, sont des électrons qui sont représentés par des ondes. Ces ondes se propagent, rencontrent ici ce qu'on appelle une marche, parce qu'en fait, on a des terrasses, une marche, une terrasse, une marche, et c'est une surface qui est un peu en escalier. Alors, si bien qu'une onde électronique qui arrive se percute le rebord de l'escalier, repart, et la superposition de l'onde incidente et de l'onde réfléchie donne des ondes stationnaires. Et si vous regardez bien, un peu avec la foi, on voit bien des maxima et des minima, qui correspondent à des franges brillantes et sombres, à des maximums et des minimums, qui sont dus à ces effets d'ondes stationnaires par les bords de marche. Et ces ondes-là, comme les vagues au bord de la plage, qu'on peut rencontrer bientôt, on observe facilement ces choses-là, ça, elles ont la forme du bord qui les a réfléchies. Si on prend, par exemple, ici, des atomes, des impuretés qui se trouvent là, positionnées sur une surface d'argent pas très propre, eh bien, les ondes électroniques qui décrivent les électrons dans le plan de la surface vont arriver, être réfléchis par cet obstacle circulaire et prendre la symétrie de l'obstacle, et on voit bien des anneaux autour. C'est un peu comme quand on jette une pierre dans un bassin, on voit les rides qui se forment autour. Bien, c'est exactement la même chose pour ces électrons. Alors là, c'est un système où on couple les deux. Au lieu de regarder les atomes d'un côté, les électrons de l'autre, on regarde les deux à la fois. Alors pour ça, on est à basse température, parce que sinon la température brûle autour, mais pas trop basse pour qu'il y ait une certaine mobilité. Alors les atomes qu'on voit de cobalt sont ces points blancs. Ils dansent sur la surface de l'argent et on voit les traces des ondes stationnaires électroniques qui sont là et qui vont permettre d'aboutir à la spectroscopie tunnel qui donnera plus d'informations sur les électrons. Alors, on va passer à cet aspect électronique et non plus s'intéresser aux atomes qu'on a mis sur la surface. On prend un autre aspect, qui est l'aspect comment est-ce qu'on peut étudier les électrons eux-mêmes dans le métal ou dans le matériau. Alors, en fait, si je reprends la structure de tout à l'heure et si je retrouve mon spot de tout à l'heure, oui, il est là. Voilà la pointe, voilà l'échantillon, la distance, l'énergie de l'électron. Alors, on sait très bien que le nombre d'électrons qui se trouve à droite va pouvoir passer à gauche s'il y a des places libres, par la probabilité de passer de gauche à droite, et ça entraîne un courant tunnel. Mais c'est les électrons qui viennent d'états qu'ils occupent sur le côté droit. Alors, si on applique ce potentiel, donc QV donne le nombre d'électrons qui va pouvoir passer. Ce potentiel, on peut le faire varier. Et s'il diminue, le courant diminue, on voit le courant diminuer. Il passe par zéro quand les potentiels s'égalisent. On inverse les potentiels et on voit petit à petit le courant apparaître dans l'autre sens. Alors ceci, c'était un peu simple. On applique une tension dans un sens et dans l'autre et le courant passe dans un sens ou dans l'autre. Mais si on regarde un peu le cas du silicium 111, la façon dont sont répartis les états électroniques est beaucoup plus compliquée. On a mis une répartition un peu comme ça, un peu au hasard. C'est plus compliqué parce que les états électroniques ne sont pas équidistants, bien réguliers. Ils sont plus importants ici, plus importants là. Et au-dessus, c'est des états vides et ils sont importants dans cette gamme d'énergie-là qui est au-dessus. Alors, si bien que dans cette partie-là, on voit les états électroniques occupés, donc les états pleins qui sont là, qui vont pouvoir passer par effet tunnel de l'autre côté. En inversant la tension, on a les états de la pointe qui vont pouvoir passer par effet tunnel vers les états vides de l'échantillon. Et on voit que suivant le signe de la tension, on va aller sonder des états électroniques soit vides, les électrons vont pouvoir y aller, soit on va collecter des électrons qui viennent de l'échantillon et on va donc sonder les états électroniques pleins. Alors on voit qu'on a une sonde des états électroniques comme ça, et ça se voit très bien sur ce silicium. On retrouve à gauche la structure en losange avec ces espèces de marguerites aux quatre coins qu'on voit là, ici, toujours pareil, de 28 angstrom de côté. On inverse la tension et une autre structure qui est un losange un peu différent où il y a une moitié qui protubère et une moitié qui est un peu plus basse et qui montre que les états pleins ne donnent pas la même image que les états vides et il y a même en fait une orientation de l'image qui est un petit peu différente. Alors tout ça, on a pu l'utiliser pour étudier les supraconducteurs. Alors pour l'étude des supraconducteurs, une autre application possible de la microscopie tunnel et de la spectroscopie tunnel, c'est d'essayer de comprendre les propriétés des supraconducteurs. De manière générale, un supraconducteur est un corps dont la résistance baisse avec la température, ça c'est normal, et brutalement à une certaine température critique, la résistance tombe à zéro. On veut savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé là. Alors on peut essayer d'utiliser la spectroscopie tunnel. Alors si on est dans l'état normal, ben c'est un isolant normal, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, le courant est linéaire avec la tension qu'on applique, et c'est la figure de droite. Voilà. Maintenant, si je viens à la figure de gauche, il est toujours là. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand le corps devient supraconducteur? Comme expliqué hier Claude Cohen-Tanouji, dans un supraconducteur, les électrons se couplent deux par deux, et chaque électron avait un spin 1,5 et s'appelait un fermion. Quand on prend deux spins 1,5 ensemble, on fabrique une paire d'électrons, qu'on appelle une paire de Cooper, et à ce moment-là, la paire elle-même se comporte comme un boson. Ce boson subit une condensation, et c'est ce qui a été décrit hier, et si bien que ces états-là n'apparaissent pas dans mon schéma d'énergie, on a enlevé une tranche d'électrons, 2 delta, qui sont les électrons qui se sont formés en paire et qui ont été condensés dans un état de paire, qu'on appelle les paires de Cooper. Donc brutalement, on a vidé au voisinage de l'énergie maximum sur une largeur de delta, ça a été vidé d'électrons, si bien qu'il n'y a plus de courant qui peut passer, il n'y a pas d'électrons disponibles qui peut permettre à un courant de passer. Alors ceci fait que dans la situation de droite, le courant linéaire, c'est les lignes pointillées, le nombre d'électrons, c'est QV, la probabilité de passer, le nombre de places vides en face, c'est la ligne. Et puis lorsque le courant ne peut pas circuler ici, on va monter l'énergie de delta pour pouvoir voir démarrer un courant pour que des électrons de la zone assurée d'un côté puissent passer de l'autre. Il faut donc apporter l'énergie supplémentaire de delta pour voir un courant démarrer. C'est ce qu'on observe ici, et dans un sens où c'est ici qu'on l'apporte et le courant pourra aller dans l'autre sens. Il ira ici et là. Alors on voit très bien que dans un supraconducteur, le courant va être différent. Il va être nul dans la largeur de delta, et ensuite va croître très rapidement. Et comme ici, la courbe démarre sec, sa dérivée devient pratiquement infinie. C'est les effets de température qui font que finalement, on a la courbe noire plutôt que la courbe rouge. Et ça donne une structure tout à fait particulière qui permet de détecter cette grandeur physique intéressante qu'on appelle le gap. Alors, on prend un supraconducteur standard qui est une pointe de niobium en face d'une surface d'or. C'est en microscopie tunnel. Et puis, on voit tout de suite que quand on est en dessous des 9 degrés, qui est la température critique du niobium, eh bien, on a un très beau gap, pas de courant ici. Hop, à delta, ça démarre sec, et ensuite, on trouve un courant régulier quand on est loin de cette valeur. Si on fait varier la température, cette courbe s'estompe petit à petit, la largeur de cette bande diminue, 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 et une fois qu'on a passé la température critique de 9 Kelvin, c'est tout plat. C'est-à-dire que c'est la dérivée d'une droite, et la dérivée d'une droite est une constante, et c'est ce qu'on voit à 8,6, et à 9, c'est complètement plat. Maintenant, si on fait ça sur un supraconducteur à haute température critique, qui sont les matériaux qui ont été découverts il y a quelques années, c'est ce qu'on appelle les cuprates supraconducteurs. Ils ont des températures critiques au-dessus de l'air liquide, beaucoup d'espoir pour les applications. Eh bien, on voit tout de suite qu'on a bien la même figure que mentionnée tout à l'heure, mais en se déplaçant le long de l'échantillon, brutalement dans une région où il y a du désordre, on a une espèce de décohérence de la phase de ces paires qui étaient condensées dans le même état, on en a parlé hier, et cette décohérence fait qu'on ne voit plus ces deux pics rouges qui sortent, mais on voit ce qu'on appelle un pseudo-gap qui est lié à la physique spécifique de ces cuprates supraconducteurs. Alors, tout récemment, en janvier 2001, on a découvert un nouveau supraconducteur au Japon qui avait une particularité d'une température critique assez élevée dont on ne comprenait pas du tout d'où elle provenait. Et on a pu montrer très récemment, ce n'est pas publié encore, que c'était un supraconducteur qui avait deux gaps. Au lieu d'un, comme d'habitude, cette fois-ci, il y en avait deux. Et pourquoi il y en a deux? C'est simplement parce qu'il y a deux familles d'électrons qu'on peut traiter comme deux familles indépendantes. Et en dessous d'une certaine température, eh bien, ces familles se condensent et on voit deux gaps apparaître à cause de ces deux familles qui viennent simplement de l'état électronique de ce matériau. Alors maintenant, dans les champs proches, on a d'autres champs proches que uniquement le microscope à effet tunnel qui poursuit sa vie de manière extrêmement intéressante et enrichissante. On a ce qu'on appelle un microscope à force atomique. Alors, le microscope à force atomique, j'ai quand même perdu le spot là. Alors, le voilà. Alors, cette fois-ci, il n'y a plus de courant qui passe et on se demandait pourquoi on ne pourrait pas imager un isolant. Comment imager un isolant? Alors, ce qu'on peut voir, c'est lorsqu'on a une pointe en face d'une surface, l'atome du bout de la pointe et les atomes de la surface interagissent. Cette interaction, quand on regarde l'interaction atome-atome, qui se trouve à droite, la courbe rouge, on voit qu'à grande distance... Ah oui, ça devient un peu faible là, je pense. Oui, peut-être essayer celui-là. On appuie où là-dessus? Là. Oui. Ah oui, alors à grande distance, on voit que l'énergie potentielle d'interaction est négative, c'est attractif. Et puis quand on approche la pointe de plus en plus pour qu'elle arrive en contact, on a une répulsion ici qui apparaît, qui est simplement les cœurs ioniques de l'atome du bout de la pointe et des atomes de la surface qui se repoussent. Alors, ceci étant, on peut très bien, soit en mode contact, en raclant l'échantillon avec cette pointe, suivre le relief par la force d'interaction, qui est la dérivée simplement de cette quantité U de R, cette énergie potentielle par rapport à R. Eh bien, on peut, en mesurant la force, exactement comme la pointe d'un micro-sillon dans les disques où la pointe était en contact et très sautait à chaque fois qu'il y avait une petite aspérité, eh bien, c'est exactement la même chose, c'est une espèce de palpeur, comme ça, en mode contact. Alors, ceci étant, ce n'est pas le seul mode possible. On peut avoir des contacts intermittents ou on peut faire vibrer le bras de levier et regarder, en fonction des aspérités de la surface, comment varie la fréquence de résonance du bras de levier. Donc, il y a toute une technique ici assez élaborée qui permet de mesurer la force entre le dernier atome du bout de la pointe et les atomes de la surface. Si bien que, comme ça dépend de la distance, quand on est face à face, la force est grande, le bras de levier s'abaisse. Lorsqu'on est entre deux atomes, la force est plus faible, l'oblique est plus longue, le bras de levier se relève, et par simplement abaissement ou relèvement du bras de levier, on mesure cette force. Le détecteur, c'est ici une diode laser qui se réfléchit sur le dos du bras de levier, et le rayon réfléchi est détecté par une diode. S'il tourne parce que le bras de levier s'abaisse, on arrive à voir un signal. Alors voilà ce qu'on fait comme surface. Ici, c'est un quartz qui est un isolant. On voit ici des boules qui représentent le groupement SiO2 qui constitue la surface du quartz. Ici, voilà de l'ADN, un brin d'ADN enlacé. Avec l'atome du bout de la surface et les atomes constituant l'ADN, on mesure cette force et on arrive à voir la topographie complète de l'ADN. Il a l'air un peu cotonneux, mais... Alors avec un AFM, donc avec la pointe comme ça qui racle une surface, on peut la racler pour déplacer des fils. Alors là, c'est un fil de carbone qu'on déplace vers la droite, qu'on monte ensuite, qu'on referme après... Et on arrive à faire des boucles et manipuler des atomes, des nanotubes de carbone avec un AFM permet de les placer par exemple en travers de contacts en or qui permettra de mesurer le transport entre deux électrodes en or qui représentent ces lignes parallèles. Et le transport dans les nanotubes est assez intéressant parce que c'est un conducteur à une dimension qui a des propriétés très particulières. Et si on tord ça d'un peu ce tube, il devient semi-conducteur, un peu dans un sens, un peu dans l'autre, on peut faire un transistor. Et tout ça, c'est à des petites échelles. Et on voit qu'on peut faire, on va faire plus tard des nanocomposants qui seront tout à fait intéressants. Alors, un autre type de microscope à effet de force, c'est le microscope à force électrostatique. Alors là, c'est assez amusant. Et ça va servir dans très, très peu de temps. Ça a été découvert il y a très peu de temps. Sur un métal, on met un piézoélectrique. Et puis, on appuie la pointe d'un AFM. On applique un potentiel. Le potentiel électrique, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va soit contracter ou dilater le matériau. Si bien qu'avec un certain signe de potentiel, on va le dilater. Avec un autre signe, on va le contracter. Et on voit qu'on peut faire de l'écriture sur un piézoélectrique. Une fois qu'on a écrit, on peut lire simplement en mesurant le relief, donc en déplaçant la pointe. Et donc, elle va descendre dans les creux, elle va monter dans les bosses, elle va descendre dans les creux, elle va monter dans les bosses. Et voilà, la lettre pi qui a été écrite comme ça. Et si on veut effacer, on inverse la tension et on efface. Si bien que ce qui était bosse devient plat, ce qui était creux redevient bosse, et on peut régénérer la couche de PZT. Donc on a un système d'écriture par un microscope à effet de force électrostatique qui va avoir des applications très prochainement. Alors dans les familles de microscopie en champ proche, la dernière famille, le troisième élément de la famille, c'est le microscope à effet tunnel optique. Alors on revient à l'optique du début, mais cette optique-là est particulière. C'est une optique champ proche toujours. Pourquoi? Alors ici, champ proche, ah, voilà. Alors ici, voilà un prisme. J'envoie une lumière laser qui arrive sur ce prisme, il y a réflexion totale. Réflexion totale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en ce point-là, la lumière essaye de passer de l'autre côté, mais ne peut pas, et à ce moment-là se réfléchit complètement. Du point de vue de la lumière, on peut dire que c'est un flux de photons, comme on a vu hier. C'est-à-dire que les photons essayent de sortir du prisme et en sortant du prisme, ils s'aperçoivent qu'il ne peut pas y avoir propagation dans le milieu extérieur et ils sont donc décrits par une onde évanescente. Alors cette description ressemble tout à fait à la description métal vide, comme on avait vu tout au début. Mais l'onde évanescente s'évanouit sur une distance très très courte et si bien qu'avec une fibre optique, comme on peut voir sur le transparent du bas, oui, comme on verrait sur le transparent, sur la partie 3, là, sur le schéma 3, avec une fibre optique taillée en pointe, qu'on voit ici, eh bien, on pourrait tout à fait collecter cette onde évanescente. Alors, suivant la rugosité de la surface, elle s'évanouit plus ou moins. Si on met des petits objets sur la surface, la façon dont l'onde s'évanouit va changer, et ça permettra d'imager ces objets-là. Alors, on peut regarder, voilà une microscopie, alors voilà un exemple d'image. Eh bien, tout simplement, on a un réseau de plots d'or qui forme des belles rangées vues par microscopie électronique à balayage. Mais ensuite, si on éclaire par en dessous, par un faisceau laser, où le vecteur de propagation va de la gauche vers la droite, on éclaire ce réseau de plots d'or, on a une figure qui apparaît sur la droite bien plus compliquée. Donc, c'est simplement que chaque plot d'or va avoir un champ électromagnétique à son voisinage qui va avoir un comportement très singulier et qui va interagir avec le champ électromagnétique du plot voisin. Et ça donne des figures où on voit bien la périodicité apparaître, mais avec des tas de nœuds et de ventres par interaction de ces ondes électromagnétiques qui donnent à ces images un caractère compliqué, mais en même temps très riche d'interprétation. Et il y a toute une physique là derrière intéressante. Alors en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, les deux familles de microscopie sont de la matière à l'échelle atomique. On a vu des atomes sous forme de boules et qui nous ont permis de voir leur distance, comment ils s'organisent. Et ça utilise bien l'aspect ondulatoire de la matière. Un électron qui se déplace, c'est une onde qui se propage. Et on voit bien que les microscopies électroniques qu'on a vues appliquent évidemment le même principe que la microscopie optique. On a des ondes progressives, on est en champ lointain et on est essentiellement sensible au volume, un peu à la surface, mais surtout au volume. Les microscopies à champ proche, c'est un autre concept. On est très près. Ce n'est pas des ondes qui se propagent, c'est des parties évanescentes. On est en onde évanescente et on détecte cet aspect évanescent avec une pointe qui est localisée près de la surface. On est donc en champ proche et c'est une sonde locale. Vous avez vu qu'on était en un point, on pouvait relever une caractéristique en ce point. La taille de la sonde qui permet de voir les atomes, c'est un atome au bout de la pointe. On est donc sensible à la surface, au dernier plan de surface. Alors tout ça, c'est important. Les applications sont très très nombreuses de toute cette technologie qui a été développée pour les microscopies à champ proche. On sait déplacer des pointes, on sait manipuler et déplacer des atomes, faire des nanocomposants artificiels qui auraient des propriétés physiques originales. et ça se développe à très grande vitesse. On joue avec des molécules et on essaye de faire une électronique moléculaire. On joue avec des atomes et on essaye de faire aussi des composants. Tout ceci pourra se voir dans un prochain ensemble de conférences qui seront rassemblées autour de ce qu'on appelle les nanosciences ou les nanotechnologies. Je vous remercie de votre attention. C'est le temps ? Ah ouais.
J'aurais aimé savoir, en fait, qu'est-ce qui a amené les chercheurs à vouloir passer... Enfin, je n'ai pas bien compris, plutôt. Qu'est-ce qui a amené les chercheurs de vouloir passer du photon à l'électron, en fait ?
Alors, comme je vous disais, le photon, dans la gamme qui sert à faire des images en microscopie optique, donc à l'aide de la lumière, à l'aide de photons, la longueur d'onde entre le rouge et le bleu varie de 8000 de 800 à 400 nanomètres. Si bien que la résolution maximum qu'on peut espérer est du même ordre de grandeur. Si on veut voir des atomes, qui était quand même l'obsession des physiciens, voir le cœur de la matière, voir les atomes, il fallait obligatoirement avoir un rayonnement qui soit de longueur d'onde de la taille de l'objet qu'on veut examiner. On a vu lambda sur 2, la limite de résolution due à la diffraction. Donc si la sonde est de grande taille, on verra que des objets de grande taille. Si la sonde est de petite taille, on verra des objets de petite taille. Et sa taille, c'est la longueur d'onde. Alors, si bien qu'on est passé des photons, comme on ne sait pas faire des photons de toute petite longueur d'onde, un photon, alors on peut passer aux X ou aux gamma, mais il n'y a pas d'optique, il n'y a pas de lentille. Donc, on ne peut pas faire d'image. Alors, évidemment, on aurait pu garder des photons, mais il n'y a pas de lentille, pas d'image. Alors, on est passé aux électrons, il y avait des lentilles, et les longueurs d'onde étaient convenables, il faut les deux. La longueur d'onde petite, on verra les objets petits, une bonne optique pour faire des belles images. Il faut ces deux conditions à la fois. Il y en a une qui manquait dans le cas du photon.
S'il vous plaît, quelle est la température critique du dernier supraconducteur ?
Alors, le dernier des derniers, c'est parce que souvent ça varie un peu, je crois que c'est 160 Kelvin. Alors 160 Kelvin, c'est un composé à base de... C'est du bisracacuo, donc c'était du bismuth, strontium, calcium, cuivre, oxygène, ça c'était 90 à 120 Kelvin. Et quand on remplace le bismuth par du mercure, on va jusqu'à 160 Kelvin. Mais l'air liquide... ce qui ne coûte rien, qu'on peut avoir dans une thermos, c'est 77 Kelvin. Donc en les plongeant dans l'air liquide, ils sont supraconducteurs. Simplement, c'est des corps un peu compliqués et les applications ne sont pas immédiates. C'est la complexité du matériau.
Je voudrais connaître les applications en biologie, notamment au niveau des ADN, des nanotechniques.
Les applications en biologie des microscopies en champ proche ?
C'est ça.
Alors, les applications en biologie, l'intérêt majeur que les gens y voient, c'est que l'effet tunnel existe entre une pointe et une surface, quel que soit le milieu. Il suffit qu'il soit isolant. La microscopie à force atomique est plus utilisée pour les objets biologiques. Pour quelle raison ? C'est que le courant électronique qui passe entre la pointe et une molécule d'ADN, par exemple, ou n'importe quel autre objet, ce courant-là a une densité importante parce que la pointe est de section toute petite, elle est terminée par un atome. Ça peut détruire l'objet qu'on regarde. Alors, on utilise plutôt l'AFM, la microscopie à force atomique. Et l'intérêt, c'est qu'on peut mettre l'ensemble dans un liquide, si bien que les objets biologiques qu'on peut examiner sont dans leur milieu naturel. Et c'est ça l'idée, de voir comment les protéines et ces objets-là peuvent s'agencer ensemble. Et on a tout à fait des applications intéressantes qui ont été observées par AFM dans de l'eau. Donc, on a le bras de levier, la pointe, la molécule ou la biomolécule sur un substrat, le tout baigné dans l'eau, et on regarde comment varie la force lorsqu'on balaye l'échantillon en face de la pointe et de voir son comportement. Alors c'était cet aspect milieu naturel qui était intéressant pour les biologistes. Voilà. Bon.
Une autre question... au niveau des ADN.
Pardon ?
Les résultats au niveau des ADN.
Alors, résultats au niveau de l'ADN, moi, je ne suis pas un spécialiste. Je sais qu'on l'a vu un peu comme les méthodes de marquage en biologie. On a vu des signaux qui indiquaient nettement adénine, guanine, cytosine. Là, on arrive à lire une variation de la force le long d'un brin d'ADN qui renseigne sur les différentes molécules qui constituent les lettres nécessaires du génome. Mais ça se fait par balayage, donc c'est un système assez lent qui n'est pas intéressant pour faire une lecture de génome, par exemple.
Monsieur le professeur, je voudrais vous demander, s'il vous plaît, si vous pourriez nous expliquer un peu plus en détail trois des expressions que vous avez employées.
Oui.
Vous avez parlé de silicium 111.
Oui.
Et vous avez également, à propos du silicium, employé l'expression 7 sur 7.
7 fois 7.
7 fois 7.
Oui.
Est-ce que par hasard, ça a un rapport avec cette figure de 6 oui. atomes qui représentait des coins d'un hexagone et avec le centre, ça fait 7 ? Ou est-ce oui. que c'est autre chose ? Et ma troisième question, c'est au sujet de l'onde évanescente.
Oui. Je
n'ai pas très bien compris ce que c'est que l'onde évanescente.
Alors, bon, les trois questions, alors, des questions un peu différentes. Alors, l'onde évanescente, il faut bien voir qu'il y a des milieux dans lesquels une onde ne peut pas se propager. Alors, par exemple, la réflexion totale, c'est un exemple qui est très bon. Un prisme renvoie la lumière à 90 degrés, mais, ou un miroir renvoie la lumière que vous envoyez dessus, mais comment la lumière sait-elle que le miroir ne va pas la laisser traverser ? Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du contact ? Ça veut simplement dire que lorsque l'onde arrive et tombe dans un milieu tel qu'il ne puisse pas y avoir propagation, si c'est métallique, par exemple, dans un effet miroir, l'indice devient imaginaire, et l'onde s'affaiblit tout de suite. Alors, ça veut dire simplement que pour qu'elle puisse avoir le temps de se retourner, donc elle arrive à la surface, il faut qu'elle sonde un peu le milieu juste après la surface pour se rendre compte qu'il ne puisse pas y avoir propagation, et elle revient sur ses pas et réfléchit. Alors, on la décrit juste après la surface, comme elle ne peut pas se propager, il n'y a pas d'énergie qui est transportée, c'est une décroissance exponentielle, et cette décroissance exponentielle, c'est ça qu'on appelle évanescent. Ça s'évanouit comme une exponentielle. Et c'est parce qu'une exponentielle s'évanouit vite que cette idée-là a été prise pour la microscopie en champ proche en disant que si on fait varier un peu l'exposant de l'exponentielle, ça va faire varier énormément le courant tunnel à cause de cet aspect qu'une exponentielle est une fonction assez furieuse de son exposant. On fait varier un peu l'exposant, l'exponentielle varie beaucoup. Donc c'est ça évanescent. Alors un électron dans un métal, quand vous regardez un bout de métal, ça ne suinte pas d'électrons à l'extérieur. C'est simplement les électrons sont retenus à l'intérieur. S'ils essayent de sortir, les ions positifs rattrapent l'électron négatif et le ramènent à l'intérieur. C'est le même phénomène pour les électrons. Et comment on décrit cette exploration à l'extérieur ? Eh bien, ça se décrit, en termes d'ondes, par un aspect évanescent, une décroissance exponentielle. C'est des mots équivalents. Alors maintenant, pour le silicium, c'est un monocristal. Alors un monocristal, c'est que les atomes de silicium sont bien rangés régulièrement. Et il y a un motif répétitif, on empile des cubes les uns sur les autres et on fait un beau cristal. Alors quand on coupe, on va couper suivant une face d'un cube, suivant une diagonale d'un cube. Alors quand on coupe suivant une face, ce qu'on appelle 1-1-1, ça repère la face cristalline. Laquelle est-ce ? Est-ce que c'est une face d'un cube ? Est-ce que c'est un plan diagonal de ce cube ? Alors la cristallographie a besoin d'indices pour définir les plans atomiques qui forment la surface. Donc la surface, c'est un plan 1-1-1. Parce qu'on a un repère formé par trois axes, au X, au Y, au Z, et 1-1, c'est l'axe ternaire. Et on a donc un plan perpendiculaire à cet axe 1-1. Ça définit la face cristalline qu'on examine. Donc c'est des indices de cristallographe pour dire vous êtes en train d'examiner la surface 1-1. Il y a 1-0-0 qui existe, il y a d'autres surfaces suivant les vecteurs unitaires qui caractérisent cette surface. Alors elle est très connue, celle-là, parce qu'elle est utilisée dans l'industrie des semi-conducteurs. Et c'est pour cette raison qu'on s'y intéresse. Mais on s'intéresse au dernier plan de surface parce que c'est celui sur lequel on va évaporer des composants. On va faire d'abord, on a du silicium et on peut mettre un métal par-dessus. Mais le métal par-dessus, il va se déposer en tenant compte du substrat sur lequel on le met. Alors ce qu'on a constaté, c'est qu'il faut donc regarder la surface, on la regarde et on s'aperçoit de losange. Alors ce losange, on mesure ses dimensions et on trouve qu'il fait 28 angstroms de côté, qu'il y a 12 atomes à l'intérieur de ce losange. Et puis ces 28 angstroms, à quoi correspondent-ils ? Alors si on regarde par rayons X la structure cristallographique interne, alors là on a une maille élémentaire d'une certaine longueur, qui est 4 angstroms, mais qu'on appelle 1. Et elle est 4 fois 4, et on l'appelle 1 par 1. Alors si bien que quand on arrive en surface, du fait qu'on a coupé des liaisons, que les liaisons pendantes, c'est très très coûteux énergétiquement, on a un réarrangement des atomes de surface, du dernier plan, et la structure qu'on a n'est pas 1 par 1, mais 7 par 7. Donc elle est 7 fois plus grande, d'un côté et de l'autre, que celle qu'il y a dans le volume. Si bien qu'on ne peut jamais extrapoler les propriétés de volume à la surface. La surface a sa vie en propre, et on ne raisonne pas par continuité. Et c'est ça que ça veut dire 7 par 7.
Je voudrais savoir s'il y a déjà des recherches pour utiliser des particules plus lourdes que l'électron.
Alors, là, comme dans les microscopies en champ proche, non. Dans les microscopies électroniques qu'on a vues, eh bien, comme envisageait Claude Cohen-Tanoudji hier, on peut augmenter la masse lambda égale h sur mv, on peut augmenter la masse des particules, et on aura un lambda encore plus petit, et on peut espérer voir des détails encore plus fins. Alors, il y a eu des essais, il y a très très longtemps, d'un microscope protonique, où c'était des protons qu'on envoyait, donc la masse est 2000 fois la masse de l'électron, donc on a une longueur d'onde 2000 fois plus petite, donc un demi-millième d'un picomètre, ça ne fait pas grand-chose, mais malheureusement, toute l'optique derrière, qui permet de faire des images, avait trop d'aberrations, et les images étaient mauvaises. Donc, le microscope protonique, qui aurait pu exister, n'a jamais marché. Alors, je crois, ce qu'on a vu hier avec Claude Cohen-Tanoudji, c'est qu'il voulait faire beaucoup d'optique avec ces ondes de matière, mais qui sont des atomes, donc la masse est très grande. Alors effectivement, on pourrait imaginer qu'il y ait de l'optique issue de ces recherches qui marche de la même manière. C'est toujours l'aspect ondulatoire de la matière. Électron, c'est une onde, un atome, c'est une onde, un proton, c'est une onde. Toute particule qui se déplace, c'est une onde qui se propage. Ce double langage qu'on tient tout le temps, c'est ça la réalité. C'est ni particule ni onde, ça dépend de l'expérience qu'on réalise, et c'est un double langage qu'il faut mener sans arrêt.
Les courants sont probablement très sensibles aux variations mécaniques. Je voulais savoir comment ont été maîtrisées la stabilité mécanique.
La stabilité du montage, c'est ça? Oui. Alors, il est évident que j'ai passé... le temps qu'on a, on ne peut pas tout détailler. Alors, on n'a pas parlé du côté technique, mais il est évident que si vous voulez faire une image nette d'un atome qui fait 0,1 nanomètre de diamètre, il faut que la stabilité mécanique de votre montage soit de l'ordre du dixième ou du centième de l'objet que vous voulez réaliser. Si vous faites une photo en tremblant, ça va être flou. Alors, le résultat, c'est qu'au départ, c'était très compliqué. On mettait tout en lévitation magnétique, en utilisant des supraconducteurs qui peuvent léviter à cause de l'effet Meissner. Et puis après, on s'est aperçu qu'en découplant par des impédances acoustiques très différentes, si on met un système extrêmement rigide, et ensuite on découple acier, caoutchouc, acier, caoutchouc, acier, caoutchouc, et qu'on suspend le microscope à l'aide de ressorts, ces impédances acoustiques très, très différentes font que la moindre vibration qui pourrait arriver au montage se trouve être complètement découplée, et finalement, on arrive à isoler très, très bien les vibrations à un microscope à effet tunnel. Il y a d'autres montages par inertie qui permettent de déplacer l'échantillon vers une pointe, et qui après, il y a un découplage mécanique qu'on sait faire. Ça a été une longue étude, mais maintenant, c'est assez bien maîtrisé. Et effectivement, on peut claquer une porte ou marcher. Ça ne crée plus de perturbations, ce qui n'était pas le cas au début, évidemment.
Dans l'exemple que vous avez donné sur l'écriture sur piézoélectrique, est-ce que vous pourriez préciser la nature de ce matériau, les échelles auxquelles on travaille et les applications de cette écriture?
Pour la lettre chinoise, par exemple
Non, l'avant-dernière famille...
L'écriture piézoélectrique, là, oui. Alors, le matériau, c'est un piézoélectrique qu'on connaît bien parce que c'est celui qui sert à faire le tube piézoélectrique qui permet le déplacement de la pointe pour faire une méthode d'imagerie par balayage. Donc, PZT, c'est plomb, zirconium, titane. Cet ensemble-là forme un matériau piézoélectrique où il n'y a pas de cycle d'hystérésis important. On a tension, déplacement bien défini. Donc, c'est ce matériau-là. Maintenant, la taille de la lettre qu'on a montré était assez grande. Si on regarde les échelles, c'était de l'ordre du micron, la taille totale, et donc la lettre pi était un peu importante. Mais actuellement, les tailles faites avec cette pointe où on applique une polarisation entre le bout de la pointe et le substrat en dessous qui est métallique, eh bien, l'écriture se fait sous la pointe et on a fabriqué des lettres de l'ordre de 17 nanomètres. Je parle en angstrom, mais c'est 17 nanomètres. Alors 17 nanomètres, c'est des petites lettres, alors ça permet de faire écriture-lecture. On peut inscrire, ça reste des semaines, des mois, et on peut relire. Et cet aspect écriture-lecture permet de pouvoir enregistrer toujours de l'information. C'est une façon de stocker l'information dans une surface plus petite, et c'est toujours plus d'informations dans moins d'espace. Ça obéit à un objectif comme ça. Alors il y a sûrement d'autres applications que je ne connais pas bien, mais ça vient de la Suisse, d'un laboratoire du bord du lac de Genève.
Jean Klein, je vous remercie. Merci.